Voilà, bienvenue à chacun d'entre vous pour cette dernière étude biblique de l'été. Voilà, l'été s'achève.
Mais il y en aura d'autres.
Je vous propose qu'on se recueille quelques instants avant de se plonger dans l'étude du texte. Seigneur, merci de nous rassembler en ce milieu du jour. Envoie sur nous ton esprit de sagesse, que nous puissions goûter ces textes et en tirer le plus grand profit. Amen. Donc, vous avez entre les mains le texte que nous allons étudier. Alors, j'ai rajouté d'abord dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains les versets 8 à 15 qui n'étaient pas inscrits au programme mais qui vont nous être utiles. Et puis dans le chapitre 15, les versets 14 à 23, c'est donc plus large que ce que j'avais annoncé dans le programme. Voilà. Alors je vous propose que je vais lire l'ensemble, ça nous mettra déjà la problématique dans l'oreille. Donc dans Romains 1, les versets 8 à 15, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Puis au chapitre 15, les versets 14 à 33. « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit-Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que le Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où le Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur ai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Voilà, dans ce cycle consacré à des visites, ce texte a un statut particulier, puisqu'il n'y a pas de visite, en l'occurrence. Hein, c'est simplement l'annonce du désir de Paul de se rendre à Rome pour visiter l'église de Dieu qui est à Rome. Mais il ne l'a pas fait. C'est une lecture un peu particulière aujourd'hui. Alors, comme à l'habitude, je vous propose que voilà, on fasse un premier tour de table pour que vous puissiez exprimer vos questions, vos réactions, vos interrogations. Alors, c'est la Nouvelle Bible Second.
Ça se passe avant qu'il soit arrêté à Jérusalem. Ça se passe chronologiquement parce qu'il va y aller à Rome.
Oui.
Il va s'y retrouver.
Donc
c'est avant qu'il aille à Jérusalem qu'il soit arrêté.
Oui, tout à fait. Alors ça pose en effet un problème dans la chronologie paulinienne. Donc Paul écrit aux Romains pour leur annoncer qu'il va leur rendre visite, mais qu'il doit d'abord aller à Jérusalem. Les exégètes, quand ils essayent de reconstituer l'arrière-fond, pensent que Paul est alors à Éphèse, qu'il s'apprête à faire ce voyage, et que c'est depuis la Grèce qu'il informe les Romains de son voyage, qui va l'amener, en effet, à se rendre à Jérusalem et à y rencontrer un certain nombre de difficultés. Il va être arrêté et enfin conduit à Rome par toute une série de procédures judiciaires.
Mais il apporte de l'argent quand il va...
Alors, en effet, on parlera en effet du but de ce voyage. Paul doit aller à Jérusalem pour cette fameuse collecte qu'il a entrepris auprès des communautés chrétiennes de Macédoine et d'Achaïe en faveur de l'église de Jérusalem. Bon, on y reviendra un peu plus en détail. D'autres...
Je dis une levée de fonds.
Oui, une levée de fonds. Oui.
L'Achaïe, c'est en Grèce quand elle s'est réparée aux Achaïe.
Tout à fait. Tout à fait, hein. C'est Corinthe, la capitale de la province romaine d'Achaïe, c'est Corinthe, donc c'est la Grèce classique.
Il peut se libérer d'une affaire, j'ai dit, cette affaire, il faut que je termine cette
oui,
affaire.
Oui, oui, il y a cette...
Je sois délivré des incrédules de Judée. Ah. Voilà.
Ouais. Alors, la collecte, hein, en effet, c'est un peu le caillou dans la godasse de Paul, hein, pour dire les choses un peu trivialement. C'est une vieille affaire qui semble remonter au débat interne aux premières communautés chrétiennes, hein, notamment évoqué dans le livre des Actes des Apôtres, avec cette première assemblée de Jérusalem, parfois ce qu'on appelle de manière très anachronique le Concile de Jérusalem, où les premiers chrétiens se réunissent, venant de diverses églises, notamment en Jérusalem et Antioche, pour réfléchir sur le statut qu'on doit accorder aux païens qui adhèrent, qui reconnaissent la messianité de Jésus. Faut-il les faire passer par le judaïsme? Faut-il leur imposer la circoncision, hein? Et cette assemblée de Jérusalem va trancher en disant que non, on ne va pas leur imposer leur circoncision, on leur demandera un certain nombre de mesures, il faudra qu'ils respectent certains interdits alimentaires, mais et en tout cas à ce moment-là, resserrer les liens entre ces communautés qui ont vécu quand même une tension, va être décidé d'entreprendre une collecte. Voilà. Les églises composées de chrétiens venant du paganisme vont être solidaires et vont se cotiser en quelque sorte au profit de l'église mère de Jérusalem qui rencontre des difficultés. Et que pendant de nombreuses années, Paul a consacré énormément d'activité, a dépensé beaucoup d'énergie au service de cette collecte. On en a le témoignage dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 8 et au chapitre 9, où l'on voit Paul, d'une part, donner aux Corinthiens l'exemple de la générosité des gens de Macédoine, c'est ce qu'il fait en, en 2 Corinthiens 8, et puis au chapitre suivant, de 2 Corinthiens 9, il vante le zèle des Corinthiens auprès des Macédoniens. Voilà. Donc il a déployé beaucoup d'intelligence, de persévérance pour arriver à lever les fonds. Et alors cette collecte a beaucoup, beaucoup d'importance parce qu'elle elle marque pour lui la solidarité, à travers un geste financier, la solidarité qui doit exister entre les églises, voilà, quelle que soit leur composition, qu'elle soit composée de disciples qui viennent du paganisme ou de disciples qui viennent du judaïsme. Donc c'est vraiment un acte de communion destiné aussi à apaiser des tensions. Et en effet, Paul sait bien que il n'est pas en odeur de sainteté à Jérusalem, et c'est pas pour rien qu'il dénonce d'ailleurs ce qu'appelle les incrédules de Jérusalem. Hein, c'est un terme assez flou. C'est littéralement les incroyants, hein, c'est ceux qui n'ont pas de pistis. Alors qui sont ces incrédules? Est-ce que sont des juifs qui refusent de reconnaître Jésus comme Messie, c'est pas exclu. Est-ce que sur ça, au sein même de la communauté chrétienne, ce sont des disciples qui refusent d'accepter les païens? C'est difficile de trancher. Oui.
Mais ça visite, c'est quand même une évangélisation. L'objectif de sa visite.
Alors, l'objectif de la visite.
En plus de la collecte de.
Alors. L'objectif d'évangélisation, il est vraiment pour Rome. Hein. Il va à Jérusalem uniquement pour remettre cette collecte. Hein. Il ne prétend pas tellement aller évangéliser. Il sait d'ailleurs que pour lui, ça va être problématique. Il a défendu sa conception de l'évangile par rapport à l'église de Jérusalem. Mais
c'est l'église de Jacques. Hein.
Oui, c'est l'église des judéo-chrétiens, des chrétiens qui viennent du judaïsme.
Comment on peut lire le... Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où le Christ n'avait point été nommé.
Oui.
Afin, est-ce que c'est une préséance, alors, une excuse, afin de ne pas bâtir sur le fondement de Christ?
Alors, c'est peut-être rappeler le verset pour tout le monde, parce que...
20.
Voilà. Voilà, ici, Paul donne une affirmation très forte d'un principe qui l'anime. Hein. Paul n'annonce jamais l'évangile là où il a été déjà annoncé. Hein. C'est ce qu'il traduit, ce qu'il dit en disant « Moi, je ne veux pas bâtir en un lieu où les fondations ont été posées par autrui. » Ça, c'est une règle de conduite. Hein. Paul... ne choisit des terrains vierges. Hein. Ce qui nous amène d'ailleurs à nous interroger sur les raisons de ce voyage à Rome. Puisque il écrit aux Romains, donc il y a déjà une communauté chrétienne à Rome. D'ailleurs, on le voit, ce qui suit le chapitre 15, c'est le chapitre 16, pardonnez-moi cette la palissade, mais dans ce chapitre 16, il y a toute une série d'adresses, de salutations à des chrétiens de Rome. Donc, il y a véritablement une église à Rome qui existe déjà. Et donc Paul, à la fois, dit « Moi, je ne suis jamais allé évangéliser là où il y avait déjà eu une première annonce. » Et en même temps, il dit « Mais je vais aller vous rendre compte. Je vais vous rendre visite. » Alors on peut dire « Pourquoi ?» C'est la question qu'il faut se poser.
En passant,
pourquoi?
Parce qu'il va en Espagne.
Voilà. Hein, en passant aussi.
Donc... Plus, il voit en Espagne d'abord. Alors, pourquoi l'Espagne? Il n'y a jamais encore eu, on n'a aucune information sur une communauté,
oui, alors, espagnole. En fait. Donc, si on... Paul, en effet, hein, vous voyez, il y a toute une géographie qui est en train de se dessiner. Hein, il dit qu'il a évangélisé depuis Jérusalem jusqu'à l'Illyrie. Hein, l'Illyrie, province romaine, qui correspond à ce qui était autrefois la Yougoslavie. Hein. Donc, d'ailleurs, ça dessine assez bien le trajet de la mission paulinienne, telle qu'on peut la reconstituer dans le livre des Actes, hein, depuis la Palestine, en passant par l'Asie mineure, jusqu'à la Macédoine, jusqu'à Thessalonique, Thessalonique des anciens, Thessalonique des poilus d'Orient. Donc il est allé hein, jusque dans ces régions balkaniques. Ensuite il dit, je vais déposer la collecte à Jérusalem, je vais passer à Rome, mais je n'ai pas l'intention de m'arrêter à Rome, je vais aller jusqu'en Espagne. Alors, Espagne, les exégètes nous disent, géographie symbolique, ce sont les colonnes d'Hercule, c'est la fin, c'est les extrémités occidentales du monde romain, du monde connu de l'époque. Et ce qui ferait dire à certains, finalement, cette géographie paulinienne qui va depuis Jérusalem jusqu'en Espagne, c'est une manière de dire l'universalité de la mission. Voilà. Paul veut embrasser la totalité du bassin méditerranéen, ce monde connu de l'époque, et il estime qu'en ayant atteint ses extrémités, il aura accompli l'essentiel de sa mission. Alors, ce qui est vrai, c'est que historiquement, nous sommes très mal renseignés sur l'émergence du christianisme en Espagne. Peut-être va-t-il en effet sur une terre radicalement vierge, où il n'y a eu aucune annonce de l'Évangile. On a quelques témoignages, alors postérieurs, bien postérieurs aux événements de l'activité de Paul en Espagne. Je vous en fais état ici. À la fin du 1er siècle, dans les années 90, Clément, hein, un certain Clément Romain, le Romain, Clément de Rome, écrit une lettre aux Corinthiens. Voilà, donc, Clément, c'est sans doute le quatrième successeur de Pierre. Hein, dans le canon romain, il y a Pierre, Clément. Et Clément, qui est finalement, on pense qu'il est l'évêque de Rome, hein, et adresse une lettre aux Corinthiens. D'abord pour un peu les disputer, parce qu'il y a des problèmes dans l'église de Corinthe. Hein, et comme disait l'autre, c'était le pape de l'époque. Hein, c'était pas encore une bulle, mais c'était déjà un savon. Alors il leur passe un savon. Et là, il fait allusion, et il écrit... Il écrit au nom de l'Église de Dieu en séjour à Rome, à l'Église de Dieu en séjour à Corinthe. Et dans cette lettre, il fait l'éloge de Paul et il écrit « Par suite de la jalousie et de la discorde, Paul a montré le prix réservé à la constance. Chargé 7 fois de chaînes, exilé, lapidé, devenu un héros en Orient et en Occident, il a reçu la renommée éclatante que lui méritait sa foi. » Après avoir enseigné la justice au monde entier et atteint les bornes de l'Occident, il rendit témoignage devant les gouvernants. C'est ainsi qu'il quitta le monde et s'en alla au séjour de sainteté, illustre modèle de constance. Voilà. Donc Clément de Rome nous dit, à la fin du 1er siècle, que Paul a atteint les bornes de l'Occident, donc l'Espagne. Hein. Et c'est repris un siècle plus tard dans ce qu'on appelle le canon de Muratori, hein, du nom du savant italien qui l'a découvert. Le canon de Muratori, c'est une première liste des livres du Nouveau Testament. Et dans ce canon, il est écrit « Les actions de tous les apôtres ont été écrites dans un seul livre. Luc a dédicacé ce livre à l'excellent Théophile. Il a rassemblé dans ce livre tout ce qui s'est passé en sa présence, comme le montre clairement son silence sur le martyre de Pierre » et aussi sur le départ de Paul, quittant la ville pour aller en Espagne. Voilà. Donc à la fin du IIe siècle, on a une indication dans la littérature chrétienne d'un voyage de Paul en Espagne. Alors cela n'a pas valeur de preuve. Hein. On n'est pas tenu de recevoir comme écriture sainte un texte ecclésiastique. Mais enfin, il y a l'indication que dans la mémoire ecclésiale, en particulier à Rome, on a le souvenir... D'un voyage missionnaire de l'apôtre jusqu'aux extrémités du monde occidental. Donc en fait, vous voyez, c'est, ce voyage de Paul, c'est vraiment un périple hein, qui est assez compliqué. Il ne va, Rome, en tout cas, n'est pas le terme ultime de son voyage. Ce n'est qu'une escale. Hein, une escale. Alors, pourquoi finalement il fait escale à Rome ? Eh bien, je pense que on peut trouver des réponses dans les deux textes que j'ai retenus. Hein. Alors, je m'attarde d'abord un peu sur le premier chapitre. Paul fait part de son projet de se rendre à Rome. Il parle de désir. Hein. C'est vraiment quelque chose qui l'habite. Il parle de désir, d'empressement. Hein. Il est poussé vers, c'est au verset 11, « Je désire vous voir ». Le verbe grec qui est choisi, c'est vraiment celui de l'urgence du désir. Donc il y a l'horizon d'une espérance, et en même temps il y a une incertitude, car il veut annoncer l'évangile à ceux qui sont à Rome, sans préciser d'ailleurs qui sont ceux qui sont à Rome. Est-ce qu'il s'agit des païens? Est-ce qu'il s'agit des juifs? Est-ce qu'il s'agit des disciples, de ceux qui suivent la voie? Il ne le précise pas. Hein, et avec cette difficulté que, dans ses lettres, Paul dit toujours qu'il va au-devant des païens, et que lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, on s'aperçoit que la mission paulinienne, elle commence toujours à la synagogue, que Paul parle d'abord à des juifs, et que lorsqu'il est rejeté, alors à ce moment-là, il se tourne vers les païens. Donc il est difficile de trancher. En tout cas, il veut annoncer l'évangile. Qu'est-ce qu'il précise même au verset 11 qu'il veut communiquer des dons spirituels, hein, des charismes. Donc là, il faudrait sans doute aller se retourner vers la première aux Corinthiens, le chapitre 5, voir de quoi il s'agit. Des charismes qui sont manifestés, dit-il, en parole et en œuvre, hein, avec des signes et des prodiges, et dans la puissance de l'Esprit de Dieu, hein, ce qui est d'ailleurs la caractéristique de l'action des apôtres et des envoyés de Dieu. Mais il ne veut pas simplement donner, hein, communiquer des charismes, il veut aussi bénéficier du réconfort de la foi des Romains, le réconfort de la foi commune. Et il précise aussi au verset 13 qu'il a été empêché, empêché, c'est un passif divin, sans doute qu'il y reconnaît quelque part une volonté divine. Il a été empêché de se rendre à Rome, mais il a quand même le désir d'y aller. Alors j'en viens vraiment au chapitre 15.
Oui. Qu'est-ce qu'il entend par les Grecs?
Ah!
Je ne parle pas des Juifs. Je me dois aux Grecs.
Je me dois aux Grecs.
Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il est de culture grecque et par conséquent, dans le monde où il a vécu, même si c'est des Juifs, le grec est une langue.
C'est la langue de l'Empire.
Oui, oui, oui. Oui.
À cette époque-là.
Oui, tout à fait.
Oui. Ce qui faisait qu'il y avait déjà, sur le plan politique, une forme d'universalisme qui était réalisée. Et que lui a profité, a bénéficié de
ces
circonstances. Voilà.
Je pense que pour lui, en effet, Grecs et barbares sont les deux catégories du monde païen. Voilà. Ceux qui sont civilisés, et puis les autres.
Les autres, voilà. Les savants et les ignorants.
Oui.
Dans cette version, c'est traduit par civilisé.
Ah, vous avez quelle version d'ailleurs?
Une version seconde.
Ouais.
Mais enfin, c'est en langue.
Oui, c'est les.
Seconde,
oui, oui.
Alors, d'ailleurs, je vérifie. Alors, je vérifie.
C'est
verset 14. Oui, Hellenoi, Kai Barbarois. Hein, donc, c'est les. Ceux qui sont civilisés, et puis les sauvages. C'est littéralement, parce que le barbare, hein, c'est celui qui balabalabala, qui borborigme, qui n'a pas la maîtrise de la langue, de la culture. Donc c'est bien ça. Donc c'est une distinction culturelle, hein, pas religieuse. Alors, Romains 15, le vif du sujet. Le vif du sujet.
Un sujet vif du sujet.
Alors, ce qui est intéressant, d'abord sur ce chapitre 15, c'est que finalement, il répond au chapitre 1. Ce que je vous ai lu du chapitre 1, c'est un fragment de l'introduction générale. Après, il y a les grands développements dogmatiques de Paul. Et là, on revient à la question très, très pratique qui est en cause, le but du voyage. Et c'est la fin de la lettre, puisque après Romains 15, 33, on a encore un chapitre 16, sur lequel les exégètes s'interrogent beaucoup, puisque certains pensent que c'est un billet qui a été ajouté, qui n'aurait pas été originairement dans la constitution de l'Épître aux Romains. Bon. Ça commence au verset 14 par un procédé rhétorique classique, captatio benevolentia, captation de bienveillance. Voilà, on essaye de se concilier ceux auxquels on s'adresse. Mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Belle déclamation, très classique, en trois points. Vous êtes gentil, vous êtes intelligent et vous êtes capable de vivre en bonne entente entre vous. C'est là la communauté chrétienne exemplaire, la paroisse dont on rêve. Donc c'est un éloge de l'Église de Dieu qui est à Rome. Ce n'est pas que de la flatterie, bien sûr. Je pense qu'il y a aussi une reconnaissance de la qualité de la part de Paul, de la vie de cette communauté. Ce n'est pas pour rien, sans doute, qu'il désire aller lui rendre visite, et pas simplement pour des motifs, je dirais, géopolitiques. Paul veut aller au cœur de la capitale du monde, de l'Empire romain. Je pense aussi que cette église, elle l'attire. Il le dit d'ailleurs. Il espère recevoir de cette église. Il ne vient pas seulement pour donner. Ensuite, à partir du verset 15 et jusqu'au verset 21, il évoque son ministère. Ministère d'apôtre, d'évangélisateur. Au verset 15, il n'hésite pas à parler de l'audace qu'il anime, de la hardiesse. C'est le Paul qui affirme qu'il vient craintif et tout tremblant. C'est aussi à la fois cet homme qui, par certains côtés, est tellement audacieux, tellement sûr de lui, par d'autres aussi, il rappelle qu'il est faible et qu'il est un avorton qui vient au devant d'une église qui a du prestige. Alors, ce qu'il dit, Dieu m'a fait la grâce d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Ministre, alors là, il y a toute une série de mots qui sont extrêmement intéressants du point de vue théologique. Ministre, c'est laïturgos, c'est celui qui remplit un office. Et c'est un mot du vocabulaire politique de la cité grecque que les chrétiens ont adopté. Ça définit bien la position de celui qui remplit un office bien précis, qui a autorité pour le faire. Il évoque aussi l'accomplissement d'une tâche qui est de l'ordre quasiment du sacerdoce. C'est ce que nous traduisons par m'acquittant du service divin. M'acquittant du service divin, en fait, c'est Hierurgo, c'est accomplir la tâche sacrée, c'est faire fonction de prêtre. Et un peu plus loin, il est question de l'offrande, hein, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. Donc en fait, pour Paul, le ministère apostolique, l'annonce de la parole, est assimilé quasiment à une fonction sacerdotale. Et ça, c'est très caractéristique de Paul et du vocabulaire du Nouveau Testament. Le véritable prêtre, c'est Jésus-Christ. Nous sommes tous prêtres en lui. Et le véritable sacerdoce, c'est le service de l'Évangile, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que tout ce vocabulaire sacerdotal, finalement, il est assumé par l'apostolat. Alors, bien sûr, en définissant de la sorte le ministère d'annonce de la parole, Paul entend lui donner du poids. Et d'ailleurs, l'offrande des nations, d'ailleurs, on peut s'interroger sur le sens qu'il faut lui donner. Soit c'est l'offrande qu'apportent les nations en confessant la foi, en adhérant à Jésus-Christ, ou l'offrande que sont les nations, un peuple agréé de Dieu. Cette offrande, elle est sanctifiée, elle est acceptée par Dieu. Donc le vocabulaire sacral, et finalement, il est affecté à l'évangélisation, le service de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est le culte en esprit et en vérité. Alors, on retrouve ça dans Romains 12, lorsque Paul invite les chrétiens à offrir leur corps en offrande véritable, en offrande à Dieu. C'est ainsi que vous rendez ce qu'il appelle le culte logique, le culte raisonnable, le culte qui est conforme à celui que le Logos souhaite voir rendu. Donc ce champ de vocabulaire, hein, qui est littéralement pétri de sacralité, appliqué finalement à l'apostolat, vient renforcer l'autorité de l'apôtre, hein, qui dit que finalement c'est de Dieu qu'il reçoit soit cette mission, et que sa tâche ministérielle s'inscrit dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Ce qui lui permet, au verset 17, de se glorifier. Hein, voilà, je me glorifie dans le Christ. Paul, ça revient régulièrement sous sa plume. Hein, j'ai donc la fierté en Jésus-Christ quant aux choses de Dieu. Et dans les versets suivants, Paul, comme il l'a déjà fait au chapitre 1, évoque finalement ses moyens d'action, hein, des signes et des prodiges, des paroles et des actes. Hein, là, on retrouve ce qui est caractéristique de l'annonce de l'Évangile. En parole et en acte, le royaume, le Christ l'annonce par une série de discours, des aphorismes, mais aussi en guérissant les malades. Paul parle de la puissance des signes et des miracles. Il parle de la puissance de l'esprit. Donc son ministère est véritablement charismatique. D'ailleurs là, en quelques versets, on a le regroupement des mots qui désignent les miracles dans le Nouveau Testament, hein, ce sont soit des signes, c'est meion, soit ce sont des dynamis, des phénomènes qui manifestent la puissance de l'esprit, ou alors ce sont des terata, des choses, des tératologies, hein, des choses qui sortent de l'ordinaire pour attester de l'action de Dieu. Et voilà ce qui donne de la puissance à son ministère. Et c'est d'ailleurs cette puissance qui permet à Paul de se glorifier. Hein, c'est pas son, finalement ses capacités personnelles qui l'amènent à de la fierté, à la cocaisis, mais c'est le fait d'être investi par Dieu, et de bénéficier de charisme qui lui permet d'être fier et de se glorifier. Et à ce moment-là, il peut alors énoncer cette géographie qu'on évoquait, on est donc au verset 18 et 19, surtout 19, voilà, de la sorte, moi, à partir de Jérusalem, et tout autour, Jérusalem et sa région, jusqu'à l'Illyrie, il a accompli l'évangile du Christ. D'ailleurs, ce verbe, peplé roméno, Kenai, c'est le verbe de l'accomplissement. Paul finalement estime qu'il y a une partie de sa mission qui est maintenant accomplie. Ce qu'il avait à faire depuis Jérusalem jusqu'à l'Illyrie, eh bien c'est fait, c'est même bien fait, et il doit maintenant passer à une autre phase. Et ce vocabulaire de l'accomplissement, de la plénitude, est aussi destiné à souligner que la prédication de l'Évangile, elle est féconde, elle est universelle. Et d'une certaine manière, il nous fait comprendre pourquoi maintenant il doit s'engager sur de nouveaux chemins. Ce qu'il avait à faire a été fait, bien fait, et maintenant on passe à une nouvelle étape, l'Espagne, en passant par Rome et en passant au préalable par Jérusalem. Donc ce qui n'est quand même pas si simple que ça, parce que bien sûr nous parlons là des voyages de Paul, mais il faut imaginer que, se rappeler qu'on est dans le monde antique, et que même si c'est un monde où on voyage beaucoup, les voyages sont loin d'être aussi faciles que de nos jours. Ça veut dire voyage par terre ou voyage par mer, avec tous les aléas que ça comporte. Les Actes des Apôtres comportent plusieurs chapitres consacrés au naufrage de Paul. Prendre la mer à l'époque, c'était pas si simple qu'on le dit comme ça rapidement. Donc, ce qu'on peut percevoir aussi, c'est la réalité des difficultés et des entraves que Paul a rencontré au cours de ses voyages.
Il lui fallait aussi beaucoup d'argent.
Oui.
Pour lui-même.
Bien sûr.
Donc il était obligé de travailler.
Et, oui.
Et tous ces voyages incroyables.
Et puisqu'on parle d'argent, je pense que le texte laisse entrevoir que l'escale à Rome est aussi liée à ce problème financier. Puisque Paul va demander finalement, s'il s'arrête à Rome, c'est parce qu'il souhaite obtenir une aide matérielle de la communauté romaine pour l'aider à effectuer ce voyage. C'est d'ailleurs, si on va au verset 24, on peut déjà le repérer.
Voilà. On peut le voir en passant.
Voilà, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous. Alors, le verbe a beaucoup interrogé les exégètes, les biblistes. C'est pas simplement que Paul attend un petit comité de soutien qui pourrait l'accompagner dans son voyage. Comme on voit bien que dans les récits des Actes, Paul ne voyage jamais seul, mais la notion d'accompagnement, c'est aussi qu'il attend des sponsors, qu'il voudrait être un peu financé, qu'il a besoin d'argent. Et là, d'ailleurs, dans la traduction, le chanoine Osti, lui traduit, oriente plutôt dans « j'attends de vous une aide matérielle ». L'accompagnement, c'est ça. Donc il va aussi à Rome parce qu'il a quelques problèmes logistiques à résoudre, et que sans doute dans la perspective d'une évangélisation dans le bassin occidental de la Méditerranée, l'escale à Rome peut s'avérer stratégique et pouvant lui apporter une aide économique, une aide financière, une aide matérielle. Au verset 20, je reviens au commentaire, au verset 20, Paul rappelle voilà, qu'il n'annonce l'évangile que qu'en des endroits où il n'a jamais été annoncé. Il justifie son propos avec une citation d'Ésaïe, tirée d'un des chants du quatrième, des chants du serviteur souffrant, hein, qui est une citation un peu accommodatrice, bien caractéristique de la manière de citer l'Écriture. Et il suggère un peu plus loin, il revient sur la question au verset 22 de l'empêchement. Hein, l'empêchement, il dit, c'est pourquoi j'ai été empêché tant de fois, tapola, hein, tant de fois. Donc c'est un projet qui a été contrarié à plusieurs reprises. J'ai été empêché de venir chez vous. Et il en profite que, enfin, quelles sont les raisons de cet empêchement? C'est parce qu'il est allé, ailleurs qu'il n'a pas pu se rendre chez les Romains. Mais maintenant, il est libre. Voilà. Il n'a plus rien à faire. Hein. Il dit au verset 23, maintenant, au contraire, n'ayant plus d'opportunité dans ces régions. Voilà. Donc il a liquidé ce qu'il avait à faire. Il peut passer à une nouvelle étape. Et on arrive alors là au verset 24, qui est un peu qui est l'essentiel, quoi, qui nous donne beaucoup de choses. J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Donc, on a cette mention de l'Espagne, et il s'arrêtera à Rome comme dans une étape. Mention en effet qui est très inattendue, hein, puisque jamais l'Espagne n'apparaît dans le Nouveau Testament. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, une géographie symbolique, les extrémités. Il attend des Romains qu'ils le mettent sur le chemin de l'Espagne. Littéralement, j'attends que vous me donniez. Y être accompagné par vous, ça veut dire vous me donnerez ce qu'il faut pour le voyage. Voilà. Donc, être mis par vous en chemin. Alors, pas simplement bénéficier de la présence de compagnons, mais bénéficier d'une aide matérielle. Mais, là, on passe à un nouveau développement à partir du verset 25. Avant d'aller à Rome et en Espagne, il y a une étape, hein, voilà, qu'on a évoquée. Il faut d'abord passer à Jérusalem. D'ailleurs, il laisse entendre que ce voyage, il est imminent, hein, présentement. C'est pas quelque chose qui est programmé dans le lointain. C'est quelque chose qui va se dérouler, qui va arriver. Je vais à Jérusalem pour le service des saints. Alors, bon, les saints, c'est la manière dont le Nouveau Testament désigne les chrétiens, hein, ceux qui sont finalement sous la sainteté de Dieu, pour les servir. Hein. C'est vraiment le vocabulaire de la diaconie, pour rendre service. Donc là, d'emblée, on est dans l'atmosphère justement de la collecte. Ce n'est pas un service spirituel qu'il va le rendre, c'est pour les assister, de manière très, très concrète, avec de l'argent. Et donc, il évoque ensuite au verset 26 cette fameuse collecte, hein. Donc On l'a dit tout à l'heure, l'Achaïe, c'est la Grèce, c'est Corinthe, Macédoine, c'est Salonique, c'est des Saloniques. C'est donc des champs où Paul a missionné, où il a annoncé l'Évangile, où il a accompagné la naissance des églises. Et ce sont ces églises issues du paganisme qui sont engagées dans une collecte en faveur de l'église mère, de la première église, celle de Jérusalem. Et donc, voilà, ce sont des églises issues, composées de pagano-chrétiens qui veulent manifester leur solidarité à l'égard d'une église composée de judéo-chrétiens. C'est un signe de communion, hein, de koinonia, comme il est dit. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les péripéties de cette collecte, le pourquoi de cette collecte. Mais c'est intéressant de voir à quel point cette question de la collecte tient une place considérable dans l'œuvre missionnaire de Paul et dans son activité littéraire. Ce n'est pas du tout une question annexe, et que c'est une manière de nous dire que voilà, l'annonce de l'Évangile a aussi des implications et des connotations tout à fait réelles, sensibles, matérielles, financières, et que le spirituel lui-même est infiniment charnel. Et au verset 28, il évoque de nouveau le passage chez les Romains en direction de l'Espagne. Et là, il emploie d'ailleurs, c'est touchant, le vocabulaire de la récolte, hein, ayant achevé, c'est le verbe qui dit que les champs sont mûrs et qu'il va falloir passer à la récolte.
Il passerait chez vous.
Oui, passerait chez vous. Alors, vous avez...
Je partirai pour l'Espagne,
je passerai chez vous. Oui. Littéralement, je partirai par chez vous. En Espagne. Mais il ira à Rome riche de bénédictions, hein, comme il dit au verset 29. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction du Christ que j'irai. Donc il viendra en étant riche. Voilà, c'est aussi une manière de leur dire vous allez faire un investissement. Voilà, vous allez participer. Vous allez participer à l'œuvre missionnaire en mettant la main à la bourse, en soutenant financièrement, mais vous allez en profiter, car je reviendrai vers vous en étant riche de bénédictions. Hein, c'est un bon manieur d'argument, Paul. Hein, il connaît l'art de parler. Et ayant dit cela, pleine bénédiction, hein, c'est littéralement une plénitude de bénédiction. Voilà, c'est pas simplement beaucoup de bénédiction, mais c'est une bénédiction totale. Hein, on est toujours dans ce vocabulaire de la plénitude et de l'accomplissement. Et à partir de ce moment-là, à partir du verset 30, il exhorte ses interlocuteurs et il les invite à la prière. Pour que sa mission à Jérusalem s'accomplisse. Hein. D'ailleurs, il emploie le terme de combat, ce qui laisse bien entendre que, voilà, que ce qui se profile à l'horizon ne sera pas facile et pas simple. Il faut que d'une part, alors, il soit délivré de ces incroyants de la Judée, ce qu'il écrit au verset 31. Apotone, enfin, oui, littéralement, c'est les incroyants. Donc il sait qu'il va rencontrer une opposition de la part de ceux qui... C'est difficile hein, de trancher, parce que est-ce que ce sont ceux qui n'adhèrent pas à Dieu, ceux qui n'adhèrent pas à Christ, est-ce que ce sont... Qui est visé finalement? l'autorité romaine qui pourrait l'empêcher d'œuvrer? Est-ce que c'est l'autorité du temple à Jérusalem? Et puis, il espère aussi être bien accueilli par les saints. Il pressent bien aussi qu'au sein même de l'église de Jérusalem, et ça on le sait par le témoignage des Actes, qu'il est un personnage controversé, hein, et que certains judéo-chrétiens lui en veulent à mort. Et ce qui ne l'empêche pas de penser qu'une fois cette mission accomplie, il pourra arriver à Rome, dans la joie, selon la volonté de Dieu, afin d'y vivre en paix, afin de goûter, comme il dit, de goûter un repos. Hein, voilà. Voilà ce qu'il entend. Il entend dire que il s'engage dans une grande épreuve, un parcours assez périlleux, mais qu'il viendra, et ça c'est assez révélateur de l'espérance de Paul, hein, qui est toujours présente, qu'il viendra finalement en Rome, en étant dans la grâce, en étant joyeux, et en pouvant goûter un repos authentique. Et ça se finit par la bénédiction, le Dieu de la paix avec vous tous. Amen. Et ça pourrait d'ailleurs être ici la fin de la lettre. Hein. L'Épître aux Romains pourrait s'arrêter là. Elle a toute sa cohérence. Hein. Paul annonce sa venue. Alors, simplement pour dire en conclusion, puis on prendra encore un petit moment d'échange, que finalement, pourquoi est-ce que j'avais choisi cette péricope? Parce qu'elle nous montre un Paul en mouvement. Hein, on le sait que Paul, c'est l'apôtre infatigable. Et là, on le voit de manière très concrète. Hein. On a en quelques versets l'évocation finalement de toute la géographie du bassin méditerranéen. Il vient d'Illyrie, de Jérusalem, il va se rendre en Espagne et il passe par Rome. Et ça nous montre aussi quelque chose sur le plan spirituel. C'est l'interaction entre les différents acteurs de l'Évangile. Paul vient à Rome en donateur, c'est vrai. Hein. Il va leur apporter à ces Romains des dons spirituels, hein, des charismes. Il va leur conférer des charismes, il va leur annoncer l'Évangile. Et Paul est très très conscient qu'il vient les mains pleines, hein, il le dit. Mais il vient aussi un peu en quémandeur, en mendiant. Hein, il a besoin de l'aide des Romains, et il le leur fait comprendre. Hein. Et c'est aussi, je crois, une belle leçon de montrer que celui qui a, c'est aussi quelqu'un qui est en manque, et qui a besoin des autres. Et troisième point que j'aimerais mettre en lumière, c'est que Paul ici montre également l'interaction, le réconfort mutuel qu'il peut y avoir entre chrétiens, entre frères. Hein. Il le dit à un moment, nous nous réconforterons mutuellement. Voilà. L'annonce de l'Évangile, finalement, elle n'est jamais unilatérale. On s'évangélise les uns les autres et on s'appuie mutuellement. Donc ça nous révèle, il y a à la fois un Paul très courageux, très fort, et aussi un Paul faible, un Paul qui compte sur les autres, hein, et qui vient rendre visite à la fois pour donner et pour recevoir. Maintenant je vous donne un peu la parole parce que je vous ai guère laissé parler.
Verset 20, il n'a pas bâti sur le fondement.
Oui, c'est le
Est-ce que Paul évoque là l'activité missionnaire de gens de son temps ou de ses
frères? Oui, oui, moi je pense. Oui, moi je pense que là il dit en effet que l'église de Rome a été fondée par d'autres que lui. Et...
tout à fait.
Oui, oui, absolument. C'est, oui. C'est la seule qui n'est pas fondée, quoi, parce que toutes les autres, en Orient, c'est lui qui les a fondées, mais Rome.
Mais il y a beaucoup de lieux, voilà, où, importants pour l'histoire du christianisme, dont on ne sait rien. Hein, voilà. Qui a fondé l'église d'Alexandrie? Hein, si elle a, bien sûr, il y a des constructions légendaires qui nous diront plein de choses, mais il faut bien mesurer que le regard que nous avons sur la mission, grâce et à travers les textes du Nouveau Testament, est très limité. Il y a énormément de choses dont nous ne savons rien. Hein. C'est un tout petit rayon de lumière sur des éléments très, très limités. Oui.
Est-ce que les références des exégèses tiennent compte aussi, travaillent sur les mêmes textes, par exemple chez les orthodoxes que chez les chrétiens, le christianisme plutôt catholique, parce que c'est avant. Est-ce que les églises qui existent, par exemple les monastères, qui restent chez les coptes,
oui.
Les origines et qui est perdu jusqu'à maintenant de l'église orthodoxe.
Ces églises d'Orient, bien sûr, elles se réfèrent au même texte que nous. Parfois, l'orthodoxie a un canon aussi un peu différent de celui de l'église catholique et des églises issues de la Réforme. Mais souvent, ces églises, parce qu'elles vivent du principe de la tradition, ont sur leurs origines une masse d'informations qui leur donne l'assurance de remonter à l'époque de Jésus, mais qui, dès lors qu'on soumet ces informations à un minimum de critique historique, s'avère moins assuré. On pourrait dénicher beaucoup de saints. Est-ce que vraiment... Marc est allé annoncer l'évangile à Alexandrie, voilà. Finalement, c'est impossible de trancher, nous n'avons pas de documents. En même temps, ce qui est porté par la mémoire d'une église ne peut pas être entièrement disqualifié, voilà. Donc, on est là devant beaucoup d'inconnus historiques.
Il y avait beaucoup de traditions, parce
que
c'était des
pays... Puis beaucoup... Beaucoup de constructions littéraires. Il y a un travail mémoriel qui se fait à travers la construction de textes. Vous voyez, quand on est confronté à l'étude de Paul, finalement, on a trois types de sources. On a ce que Paul dit lui-même, des lettres. Voilà. Hein. C'est d'ailleurs déjà un monde. On peut s'interroger beaucoup sur l'authenticité des lettres de Paul. Ensuite, vous avez... les actes des apôtres. C'est un regard sur Paul. C'est un auteur qui, bien après Paul, nous fait le récit. C'est une réception, déjà postérieure, de l'œuvre de Paul dans la conscience chrétienne. Et puis, il y a toute une littérature apocryphe sur Paul. Il y a des actes de Paul, une correspondance de Paul avec Sénèque. Alors, tout ça est beaucoup plus tardif, date du IVe siècle. Mais... témoigne aussi de la manière dont Paul est reçu dans la conscience chrétienne, à un certain moment, et on ne peut pas exclure que cette littérature apocryphe porte des éléments sur Paul qui méritent d'être pris en cause. C'est une source parmi d'autres, une source qui n'est peut-être pas la plus fiable, mais une source à prendre en compte comme toutes les sources historiques. Donc, vous voyez, quand on est en face de ces problèmes historiques, des origines du christianisme, on est devant un monde complexe où on a peu de connaissances, beaucoup de légendes et peu de certitudes, finalement.
Beaucoup d'éléments contradictoires.
Aussi, oui, bien sûr.
Enfin, ça, c'est mal terminé pour lui.
Ah, bah, ça, quand je vais être là pour Et Pierre, oui, il a vraiment été exécuté le même jour que Pierre, ça.
Alors là, on entre dans le domaine aussi de l'histoire. Hein. On a On a, qu'est-ce qu'on a ? On a quelques témoignages de la littérature chrétienne, hein, qui nous laissent entendre que, de fait, Paul et Pierre ont confessé leur foi à Rome. Et puis, on a les témoignages de l'archéologie, hein, à Rome, de manière assez précoce. Il y a une vénération du culte des martyrs. Voilà les deux éléments sur lesquels on peut penser que Paul est mort martyr à Rome dans les années 60. C'est beaucoup, et en même temps, c'est limité. On n'a pas de certitude absolue.
Même les actes de la faute,
non. Non, le témoignage, c'est dans Eusèbe de Césarée, au début du IVe siècle, recueille pour son histoire ecclésiastique la lettre d'un prêtre romain qui écrit à un chrétien pour lui dire que si tu vas à Rome, tu pourras voir le trophée, dit-il, le trophée des apôtres. Alors pour Paul, c'est sur la voie qui mène à Ostie, et pour Pierre, c'est au Vatican. Et c'est vrai que, eh bien, au Vatican, on descend dans les caves du Vatican et qu'on voit ce fameux mur rouge, hein, dans ce qui est sans doute là où Paul a été inhumé après avoir été exécuté, et puis sur la voie d'Ostie, à Trois-Fontaines, à Tréfontané, il y a le lieu où Paul aurait été décapité. Voilà. Donc ça, on atteint quelques renseignements historiques, mais... Est-ce qu'on peut en avoir une certitude absolue, c'est comme en histoire. Quelle certitude absolue peut-on jamais avoir ?
Moi, je vais faire une petite transition avec les journées du patrimoine.
Oui.
Puisque dans le temple d'oratoire, il n'y a pas beaucoup de décorations, mais il y en a une très célèbre. C'est Paul sur le chemin de Damas. Tout le monde connaît et admire. Donc, j'en parle parce qu'en fait, je beaucoup d'autres, sans doute.